Sœur, bonjour et bon savoir.
Juste quelques rappels d'annonce avant de commencer. Donc on va faire une semaine de prière pour implorer l'intervention divine pour qu'on puisse avoir un nouveau local. Vous avez vu, pour ceux qui étaient là ce matin, on a une autre preuve que le temps est venu pour nous de partir. On nous a ouvert vers 10h20, donc, puis les épisodes du mercredi soir, on nous envoie dans le restaurant, tout ça. Donc c'est comme si le temps est venu de partir, c'est évident, n'est-ce pas? Donc on veut prier pour ça, pour que Dieu intervienne. Puis l'autre chose, les vigiles matinales, s'il y en a qui en veulent, j'ai un stock, donc venez me voir avec une feuille, écrivez votre nom, puis la quantité que vous voulez, puis je pourrai vous dire en fonction de mon stock ce que je peux vous remettre. Donc c'est ça, s'il y en a qui en veulent, venez me voir après le culte. Donc la méditation de ce matin a pour titre « Une communion ininterrompue, la puissance de la dévotion ». Vous savez, le but de prendre du temps avec Dieu, d'avoir une dévotion, c'est d'avoir une communion ininterrompue avec Dieu. C'est ça l'objectif. Donc, ouvrons la tête pour une courte prière. Éternel, ton Père, notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ce sabbat de plus que tu nous accordes. Nous venons ici t'adorer, Seigneur, partager ta parole, rencontrer les frères et sœurs, Seigneur, te rendre un culte. Accompagne-nous dans ce moment de méditation, Seigneur, où nous allons voir quelques principes dans ta parole sur comment est-ce que nous pouvons maintenir une communion avec toi de manière à ce qu'elle soit ininterrompue. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Il y a un monsieur en Afrique australe, donc en Afrique de l'Est, je pense que c'est le Kenya ou Tanzanie, je ne me rappelle plus exactement. Mais son nom c'est Golden Lipani. J'ai retenu parce que je trouvais ce nom intéressant, Golden Lipani. C'est quelqu'un qui était musulman, qui s'est converti, devenu chrétien, adventiste septième jour, donc un parcours un peu comme le mien. Et il a un témoignage que vous pouvez écouter sur le site d'Audioverse, donc je vous invite à aller écouter le témoignage de Golden Lipani. Et lorsqu'il est devenu chrétien, adventiste, c'est quelqu'un qui partage la parole et puis qui emmène beaucoup, beaucoup d'âmes au Seigneur. Énormément d'âmes, des milliers de personnes. Et j'étais intrigué, je me disais, mais c'est ça ce Golden Lipani, je vais aller écouter... Qu'est-ce qu'il dit comme ça pour attirer autant de personnes? Et je suis allé écouter son témoignage sur Audioverse, puis il parle anglais avec un accent super fort, et je trouvais que ce qu'il disait c'était compréhensible, mais ce n'était pas une prédication extraordinaire. Je voulais d'où venait cette puissance. Puis j'ai entendu un autre message de Ron Clouzet qui parlait de Golden Lipani, et puis qui disait que lui, son secret pour pouvoir atteindre autant de personnes, c'est que chaque jour, sans exception, il passe un temps de dévotion avec Dieu de 3h du matin à 7h du matin. Chaque jour. Chaque jour, c'est ça son temps avec Dieu. Je ne sais pas comment il organise sa journée, quand est-ce qu'il dort, je ne sais pas. Mais c'est ça son quotidien. Et c'est là qu'il trouve cette puissance pour attirer autant d'âmes. Donc je dis, Seigneur, humble serviteur que je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. Mais je veux comprendre c'est quoi cette communion ininterrompue qui fait qu'on devient irrésistible aux autres quand on parle de Jésus-Christ. Donc je partage avec vous ce matin quelques principes qui, j'espère bien, vous aideront dans votre quête de Dieu dans la dévotion. Amen. Donc, quand on a notre Bible, parce que c'est notre Bible qui est le guide, n'est-ce pas, pour passer notre temps avec Dieu, il faut faire plus que juste la lire. La première chose qu'il faut faire, c'est dans nos textes de méditation, dans Jean 5, verset 39, Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, il commence en disant, vous sondez les Écritures. Donc, il s'attend à ce qu'on ne fasse pas juste lire, mais à ce qu'on fasse quoi? On sonde. Donc, c'est la chose numéro un. C'est comme s'il faut creuser pour vraiment arriver à trouver le trésor caché. Puis, la deuxième chose, elle est dans 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 15. Deuxième principe qu'il faut avoir en tête lorsqu'on approche les Écritures. Donc il faut les sonder, première chose. Puis dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, il faut faire quelque chose d'autre. 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 15. Je vais vous lire probablement la version 8 secondes. Puis ensuite, on va lire dans Martin pour appuyer le point que je veux vous montrer. Donc dans 8 secondes, ça dit « Efforce-toi de te présenter » devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Donc cette première partie, efforce-toi. Dans la version Martin, le même passage est traduit, étudie. Étudie-toi de te rendre approuvé de Dieu, ouvrier sans reproche, enseignant purement la parole de la vérité. La première chose, il faut sonder. Et deuxième chose, il faut étudier. C'est comme si on approche ça comme, un peu comme une matière à l'école. Il faut étudier pour pouvoir vraiment aller loin dans la parole de Dieu. Souvent, lorsqu'on ouvre la Bible et puis qu'on la lit simplement parce qu'on n'est pas en train de la sonder ou l'étudier, on n'a pas d'objectif vraiment en tête. C'est juste, je lis ma Bible, voyons ce que je vais découvrir, mais on n'a pas un but. Alors que lorsqu'on la lit avec un objectif, il y a plus de chances qu'on puisse tirer quelque chose qui va être bénéfique pour notre âme. Je vais vous lire vers Jésus, page 137, le paragraphe 2. Voici ce que Ellen White dit à ce sujet. Elle dit, en revanche, on ne tire que peu de bien d'une lecture hâtive. On peut lire la Bible tout entière sans en apercevoir les beautés et sans en comprendre la signification profonde qui reste cachée au lecteur superficiel. Un passage étudié et médité jusqu'à ce qu'on en ait bien saisi la signification et les rapports avec le plan du salut vaut mieux que la lecture de plusieurs chapitres faite sans but arrêté et sans qu'on en ait tiré aucun enseignement positif. Donc l'approcher avec un objectif en tête. Là, j'aimerais vous donner un exemple. On est dans un monde où on est confronté à... C'est comme si la Bible et la science ne vont pas ensemble, n'est-ce pas? Souvent, on nous confronte là-dessus. Nous, en tant que chrétiens, on sait que les deux vont ensemble. Mais par rapport aux théories sur la création de ce monde versus l'évolution de ce monde, on nous parle de la planète qui est comme un puzzle, comme des pièces qui se sont détachées. Vous savez, si vous regardez l'Afrique, puis vous regardez l'Amérique du Nord, puis l'Amérique du Sud, et l'Asie, ça a l'air évident qu'on dirait que ça s'emboîte, n'est-ce pas? C'est comme si c'était ensemble, puis ça s'est détaché. Ça, c'est ce que la science nous dit, puis ça nous explique que les plaques se déplacent d'année en année de quelques centimètres. Puis on se demande, qu'est-ce que la Bible a à dire à ce sujet? Elle dit juste que Dieu a créé le monde, etc. Mais et comment on explique ce fait que ça a l'air de s'emboîter? Bien sûr, la Bible a quelque chose à dire. Allez, dans 1 Chronique, chapitre 1 et le verset 19. Le livre des Chroniques, 1 Chronique, chapitre 1 et le verset 19. On nous parle des 10 patriarches d'Adam à Noé. Donc on nous parle de qu'est-ce qui s'est passé sur la terre un peu après le déluge. Okay? Et dans 1 Chronique, chapitre 1 et le verset 19. C'est écrit, il naquit à Héber deux fils. Puis là, Héber, c'est pas loin après Sem. Sem, c'est un fils direct de Noé, ok? Donc c'est vraiment peu après le déluge. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg. Ensuite, on dit, parce que de son temps, la terre fut partagée et le nom de son frère était Joktan. Donc du temps de Péleg, la terre fut partagée. C'est ce qui explique pourquoi. On a l'impression que tout s'emboîte. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a des hommes dans tous les continents, alors qu'ils ont l'air super distants, et se demandent comment ils ont fait pour aller d'un côté à l'autre, alors qu'il n'y avait pas les moyens de transport qu'on a aujourd'hui. Donc, en sondant la Bible avec cet objectif en tête, je suis plus clair sur la compatibilité de la Bible avec la science. Ok, j'aimerais partager avec vous maintenant deux principes pour étudier la Bible lorsqu'on l'approche. La première chose, il faut avoir en tête que ça prend du temps. Les lectures superficielles ne permettent pas d'obtenir le résultat qu'a Golden Litany. Ça prend vraiment du temps. Et il faut le prendre ce temps ici. Au début, j'ai fait l'annonce pour les vigiles matinales, puis je vous invite à prendre des vigiles matinales et les lire. Mais si votre dévotion, c'est juste la vigile matinale, c'est pas assez. C'est vraiment quelque chose, c'est comme une entrée, vraiment, pour pouvoir méditer. Mais pour être solide là dans la parole de Dieu, il faut que vous passiez du temps ici, sans lecture superficielle. Première chose, le temps. Deuxième chose, allez dans Ésaïe chapitre 50 et le verset 4. Ésaïe chapitre 50 et le verset 4. Ésaïe chapitre 50 et le verset 4. Ça, c'est au niveau de c'est quand le meilleur moment pour avoir sa dévotion. Ésaïe chapitre 50 et le verset 4, c'est une prophétie messianique en parlant de Jésus. C'est dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a abattu. Il éveille, donc il éveille quand? Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Donc Jésus, c'était quand que Dieu éveillait son oreille pour qu'il écoute comme écoute des disciples, c'était chaque matin. Vous pouvez faire un parallèle avec la manne aussi qui était donnée aux hommes chaque matin. Donc ce temps-là, je ne sais pas pourquoi, mais ce temps-là a l'air meilleur que n'importe quel autre moment pour s'approcher de Dieu, pour l'entendre nous parler. C'est comme il y a une manne, il y a quelque chose qui vient le matin lorsque l'on s'approche de Dieu à ce moment-là. Il y a des personnes qui vont dire, mais moi je suis pas quelqu'un du matin, moi je me couche tard puis je me lève tard, ça fait que ça ne marche pas pour moi, il faut que je trouve un autre spot. Mais la vérité c'est qu'on est tous les descendants de Adam et Ève, et Dieu nous a créés pour être tous des personnes du matin. C'est juste notre déréglage de la télévision qui nous fait croire que nous sommes des personnes du soir. Mais nous sommes tous faits pour nous approcher de Dieu le matin. Parce que la manne venait le matin et Dieu ne faisait pas d'exception, il ne donnait pas de manne à midi là. Donc c'est nous qui nous sommes déréglés nous-mêmes par nos mauvaises habitudes. Maintenant, je vais te donner un truc, parce que moi-même, j'étais quelqu'un qui était complètement déréglé, puis je me couche super tard et je me lève tard. Mais pour pouvoir vivre cela, j'ai dû appliquer la chose suivante. C'est tout simplement essayer de me lever tôt, même si je me suis couché tard. Puis je vous assure, là, si vous avez l'habitude de vous coucher à 11h ou 1h du matin, vous dites, je vais faire ma dévotion à 5h. Là, vous levez à 5h, puis vous faites votre dévotion. Le lendemain, vous vous couchez encore à minuit, 1h, vous vous levez à 5h, vous faites votre dévotion. Vous faites ça 3 jours de suite. Je vous garantis qu'au bout du 4e jour, vous êtes tellement KO que vous arriverez à être au lit à 10h. Moi, c'est comme ça que je suis arrivé. J'ai dû me forcer pendant un minimum de temps pour que mon système se réhabitue à aller au lit à la bonne heure. Ou disons, à se sentir fatigué à la bonne heure. Mais il faut pas avoir l'illusion que nous ne sommes pas des personnes du matin, donc ayons une dévotion à un autre moment. Ça, c'est mieux que rien, mais ne perdons pas de vue l'idéal. Ok. Retournons dans Jean chapitre 5, verset 39. Je partageais avec vous à différents points par rapport à pourquoi est-ce qu'on doit sonder les Écritures. Objectif quand nous sondons les Écritures. La première chose, Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc la première chose qu'on veut, c'est avoir le témoignage de Jésus, savoir de quoi Jésus a l'air, c'est quoi le caractère de Dieu. Rendre témoignage dans la Bible, c'est le symbole de parler du caractère de quelqu'un. Dans Hébreux 11, verset 5, en parlant d'Enoch, on nous dit qu'avant qu'il monta au ciel, il a reçu de Dieu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et dans le choix des diacres, dans Actes chapitre 6, verset 13, on dit qu'on a choisi 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, lorsqu'on l'ensonde, on doit le faire dans le but de l'enseigner, parce qu'on a lu dans 2 Timothée 2, verset 15, que le but, c'était de dispenser droitement la parole, donc pas juste la garder pour nous, mais de la faire connaître à d'autres. Autre objectif, il faut aller dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. 2 Timothée 3 et le verset 16. Que peut-être tout le monde le connaît par cœur. 2 Timothée 3, verset 16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Donc c'est en sondant les écritures que je vais savoir comment je gère mes finances, que je vais savoir comment je gère mon mariage, que je vais savoir comment je gère ma vie, tous les détails, c'est en sondant les écritures que je vais savoir ça. Et puis, l'autre chose vraiment importante, c'est dans Romains 15, verset 4, important qu'on approche la Bible, c'est pour savoir gérer les tensions de notre âme. Allez dans Romains chapitre 15 et le verset 4. Romains chapitre 15 et le verset 4. C'est dit, ben je vais attendre un peu, Romains chapitre 15 et le verset 4. Romains chapitre 15 et le verset 4. C'est-à-dire, or, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc la patience et la consolation que donnent les Écritures. Et vous pourriez rajouter n'importe quelle autre tension qui a votre âme, par le manque de pardon, par la colère, par n'importe quoi qui est en vous, l'Écriture vous permet d'avoir la victoire là-dessus. Et il y a des moments où je trouvais des tensions terribles en moi, mais en passant le temps de dévotion, par exemple la difficulté à pardonner quelqu'un, par je ne sais quel miracle, vous arrivez à pardonner la personne dans le temps que vous passez avec Dieu. Donc c'est des miracles que Dieu fait dans le temps de dévotion. Êtes-vous des bébés spirituels ou êtes-vous matures spirituellement ? à chacun de se poser la question. Mais regardons ce que dit Ésaïe 28, verset 9 à 10. Vous pouvez approcher la Bible de plusieurs méthodes. Si vous voulez, vous pouvez étudier par livre. Si jamais vous voulez choisir un livre et puis sonder ce livre à répétition jusqu'à ce que vous le maîtrisiez, ça c'est un moyen de le faire. Ou vous pouvez aller par thème, choisir un thème. Je vais voir tout ce que la Bible dit au sujet de la dîme et des offrandes et vous allez sonder tous les passages. Ou vous pouvez prendre des séries d'études qui sont déjà toutes faites comme celle d'Amazing Facts et vous pouvez... Il est écrit, vous pouvez utiliser ça pour vos dévotions si vous ne savez pas par où commencer. Mais voici ce que Ésaïe 28, verset 9 à 10 dit au sujet de la maturité qui est vraiment importante. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle. Un peu ici, un peu là, en parlant de sonder les Écritures. Plusieurs d'entre vous avaient... il y en a qui sont parents. Moi, j'ai pas d'enfants encore, mais il y a une grande différence entre moi et puis mes frères. Donc, j'ai pu pendant longtemps observer, savoir c'est quoi avoir un bébé autour de toi 24 heures sur 24. Puis un enfant, lorsqu'il est petit, un de ses réflexes, n'est-ce pas, c'est qu'il met tout à la bouche, n'est-ce pas? Tout ce qu'il prend et qui peut rentrer dans sa bouche, dans sa tête, égale nourriture. Donc vous devez filtrer les pièces de Lego, vous devez filtrer les insectes morts, vous devez filtrer tout pour pas que l'enfant les mette dans sa bouche, n'est-ce pas? Parce que c'est un enfant, c'est un bébé. Maintenant, si vous faites le parallèle à ce qu'on a lu dans Ésaïe 28, êtes-vous un bébé spirituel ou êtes-vous mature? Si vous êtes un bébé spirituel, qu'on a constamment besoin de vous nourrir, le danger, c'est non seulement vous ne savez pas aller chercher la bonne nourriture, mais comme le bébé, vous ne savez même pas si c'est bon pour vous. Parce que dès que ça rentre, vous pensez que c'est de la bonne nourriture. Alors que lorsque vous apprenez à sonder les Écritures, à aller vers Dieu, à puiser, à savoir vous-même vous nourrir de la parole de Dieu, non seulement vous allez grandir, mais vous allez pouvoir distinguer entre ce qui est de la bonne doctrine et ce qui n'est pas de la bonne doctrine. Donc on peut être des bébés spirituels, mais il ne faut pas le rester toujours. C'est grave. Ok. Je vais vous montrer quelques exemples dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Oui, c'est bon, merci. Luc chapitre 17, avant que l'on lise, on ira à partir du verset 11, là, mais avant que l'on lise, lorsqu'on approche la parole de Dieu, bien sûr, il faut prier pour que le Saint-Esprit puisse nous guider, parce qu'on ne peut pas comprendre la parole de nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Il faut la lire attentivement pour pouvoir nous rendre compte de certaines choses que l'on ne verrait pas dans une lecture superficielle. Il faut observer, et puis je vous invite à noter vos observations. Si vous voyez un truc simple, notez-le comme observation. Un autre truc simple, notez-le comme observation. Et puis une combinaison de petites observations va vous emmener à une révélation supérieure. Mais notez vos petites observations. Puis ensuite, il faut comparer les Écritures les unes avec les autres pour arriver à cette révélation supérieure. Donc là, il y a quelques exemples que je veux vous donner et on va voir aussi dans Luc chapitre 17. Par exemple, vous rappelez Samson, lorsqu'il a péché avec Dalila, les Philistins sont venus le prendre, puis l'ont emmené captif. Et on dit qu'on l'a enchaîné. Mais la Bible précise qu'on l'a enchaîné avec des chaînes d'airain. Lorsque Nebuchadnezzar s'est rebellé contre Dieu, puis que Dieu lui a fait manger de l'herbe pendant 7 ans, on dit qu'il était comme un animal avec les cheveux qui poussaient des ongles comme ceux d'un aigle. Et il a été enchaîné lui aussi. La Bible dit qu'il a été enchaîné avec des chaînes d'airain. Lorsque le roi Sédécias s'est révolté contre Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar est venu le prendre et il l'a emmené pour le faire crever les yeux. Puis la Bible dit aussi qu'on l'a enchaîné avec des chaînes d'airain. Lorsque vous voyez ça, vous voyez ensuite que dans Daniel chapitre 2, la statue d'or nous parle du royaume d'airain qui est le royaume des Mèdes et des Perses. Vous voyez comment, le royaume grec, pardon, vous voyez comment son leader est mort, Alexandre le Grand, qui est le royaume d'airain. Et là, vous comprenez que les chaînes Et les reins de bronze, c'est souvent en rapport avec le fait d'être au sommet, de se rebeller et puis de chuter bas, de se retrouver tout en bas à cause de l'orgueil. Exactement comme Alexandre le Grand est mort. Il était au sommet, il n'y avait pas plus grand que lui, mais il a chuté à 33 ans à cause d'une orgie. Donc les chaînes dans la Bible et les reins sont comme symbole du fait d'être captif du péché. Ah, c'est une chose. Dans Luc chapitre 17, allons maintenant dans Luc chapitre 17, avant les 10 lépreux, à partir du verset 11, c'est écrit: Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les vit, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Donc Jésus a guéri 10 lépreux, puis il a dit: allez devant un sacrificateur, vous sachez que vous fassiez tout selon le principe. Jésus ne veut pas violer la loi. Mais je trouve intéressant que on dit qu'il y avait 10 lépreux. Et que sur les 10 lépreux, il y en a combien qui est revenu, qui a donné gloire à Dieu? 1. 10 sur 1, c'est quoi le pourcentage? C'est 10%. 10%, ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à la dîme, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on donne la dîme? Obéissance, oui, vous faites vraiment pour être obéissant envers Dieu. Mais, oui, c'est ça. Lorsqu'on donne la dîme, on donne juste 10%. Mais en donnant ce 10%, on obéit et on reconnaît que Dieu est celui qui nous a donné le 100%, n'est-ce pas? On reconnaît que tous nos revenus viennent de Dieu. C'est pour ça qu'on donne juste 10%. Il ne faut pas oublier, c'est comme s'il y a une lutte ici toujours entre Satan puis Jésus-Christ dans le ministère de Jésus. Pour que tout ce que Jésus fait, au lieu que la gloire revienne à Dieu, la gloire aille à Satan. Ou alors que la gloire ne soit pas donnée à Dieu. Puis là, Jésus, il guérit 10 lépreux. Puis il y en a juste un qui revient, qui donne gloire. Il est comme le 10%, il est comme la dîme qui revient à Dieu. Puis ça suffit à Dieu pour montrer que je suis sur ton terrain. La dîme m'est revenue, ça fait que toute la gloire me revient quand même. Autre chose qu'il faut faire lorsqu'on sonde les Écritures, il faut méditer. Matthieu, allons dans Matthieu chapitre 12 et les versets 43 à 45. Méditer, c'est-à-dire pas comme les bouddhistes, là, pas comme les gens d'Orient où on vide notre tête. Il faut méditer dans le sens de la Bible. En Matthieu 12, versets 43 à 45. Matthieu 12, versets 43 à 45. C'est écrit: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc on prend la parole de Dieu, on la médite, c'est pour remplir, pour qu'il n'y ait pas ce vide. Parce que Dieu vient et nous libère des mauvais esprits ou des mauvaises influences sur nous. Mais si on ne le remplit pas avec quelque chose de solide, eh ben, les sept esprits méchants reviennent, prennent la place. Et notre condition peut être pire que celle que nous avions avant. Dans les périodes de méditation aussi, c'est là pour que Dieu nous donne des messages subtils qu'on n'aurait pas entendus parce qu'on a l'esprit agité. Mais lorsqu'on est dans le calme et qu'on médite la parole de Dieu, des révélations claires peuvent nous venir. Oui, j'aimerais vous donner ce dernier point. Allez dans Actes chapitre 3. Le dernier point, c'est le partage. savez, quand on va à l'école, puis on étudie dans l'objectif de passer les examens pour pouvoir plus tard avoir un diplôme. Donc c'est comme si l'examen est le test de si nous avons vraiment assimilé la matière. Donc lorsqu'on étudie la parole, le test qui montre qu'on a vraiment assimilé la matière, c'est est-ce qu'on est capable de la présenter à d'autres de manière à ce que ce soit compréhensible? Est-ce que les autres peuvent tirer bénéfice de notre explication de la parole? Et quand on partage, on retient beaucoup mieux ce que l'on a appris aussi, versus quand on ne partage pas. Donc, en partageant la parole de Dieu avec une dame musulmane récemment, j'essaie de lui montrer la condition que la Bible donne pour les femmes versus ce que le Coran donne pour les femmes. Donc je lui montrais des sourates. On lui disait que si jamais une femme n'est pas obéissante, il faut la tenir à distance. Puis si la tient pas, si ça suffit pas, bon, tu peux aller jusqu'à la battre, etc. Puis je montrais que dans la Bible, la condition de la femme était bien meilleure. Puis elle me disait, oh, c'est pas vrai ce que tu dis, je vais aller vérifier auprès de quelqu'un. Puis elle allait voir quelqu'un, puis elle lui a dit, un autre musulman, puis elle a dit, est-ce que c'est vrai que ça dit qu'on peut battre la femme? Puis le gars a répondu, oui. C'est qu'elle est revenue avec moi un peu épeurée. Puis j'ai dit, j'aimerais te montrer autre chose. Parce que souvent, il y a un argument que les musulmans sortent, qui moi me rendait perplexe. Pourtant, c'est tout simple dans la Bible. Mais quand on ne lit pas, quand on ne sonde pas, on a l'impression qu'on n'a pas la réponse. Mais c'est très simple. Dans Actes chapitre 3, au verset 22, c'est écrit, Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Donc les gens, parce que ce texte revient tel quel dans Deutéronome chapitre 18 et le verset 15, et ils prennent cela et se disent, ça fait référence à Mahomet, le prophète d'un de ses frères, parce qu'il dit qu'Ismaël, c'est le frère d'Isaac. Donc Mahomet est frère des Hébreux, et c'est de lui dont on parlait ici dans Deutéronome chapitre 18 et le verset 15. Mais l'étudiant basique de la Bible, il va tout simplement lire Actes chapitre 3, et au lieu de lire juste le verset 22, il va commencer plus haut, il va commencer au verset 19, où ça dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que viennent les temps de rafraîchissement, viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Ensuite, ça dit, Moïse a dit. Donc, de qui on parle? C'est clair que l'on parle de Jésus-Christ. Il n'y a même pas sujet à interprétation. Il y a juste à comparer les versets entre eux. Donc, en partageant cela, cette idée est devenue bien plus claire dans ma tête. Donc, en conclusion, mes frères et sœurs, retenez les points suivants. Si vous voulez vraiment atteint une expérience comme celle de Gordon Lipani, après laquelle moi je soupire aussi. Cherchez à découvrir le caractère de Dieu dans sa parole, sondez-le. Cherchez à la partager avec les autres, cherchez à trouver des instructions pour votre vie et cherchez à résoudre les problèmes émotionnels dans la parole de Dieu. Quand vous l'approchez, priez parce que vous n'êtes pas capable de vos propres moyens de discerner qu'est-ce qui est bon et c'est le Saint-Esprit qui attire votre attention sur ce qui est important. Prenez le temps de la lire comme il faut, d'observer, de noter vos observations, de comparer les passages entre eux. Méditez les textes afin que vos têtes ne restent pas vides, mais que vous ayez toujours la matière solide et puis que Satan ne vienne pas prendre la place. Puis partagez-la aux autres. Puis ça va être le test, à savoir si vous avez vraiment assimilé la matière. Amen. Donc, juste avant de prier, nous allons faire passer des enveloppes. On a dit qu'on ferait passer des enveloppes pour récolter des offrandes par rapport à le fait que nous voulons avoir une nouvelle bâtisse, n'est-ce pas? Les diacres et les diaconesses peuvent se préparer par rapport à cela. Comme on disait, de donner 10 fois votre âge, c'est ça, 2 fois votre âge. En tout cas, je ne sais pas. Moi, j'ai fait une expérience, juste dans une des conférences de Jaffa. On disait aux gens qui viennent le samedi, est-ce qu'on va leur facturer un montant fixe ou est-ce qu'on va leur donner la liberté de donner ce qu'ils veulent? Puis un groupe, on voulait leur fixer un montant fixe, on voulait leur dire, donnez-nous 15 dollars. On s'est dit, non, laissons-leur donner ce qu'ils veulent. Ne fixons pas un montant. Donc il y a à peu près 4 personnes qui sont venues. du groupe qu'on avait ciblé, si elles avaient donné tous $15, ça aurait fait combien? 60. On a dit non, donnez ce que vous voulez. Puis là, je ne sais pas combien ils ont donné au total, mais une sur les quatre a donné $500. Là, on s'est dit, heureusement qu'on n'a pas fixé un montant. C'est que, frères et sœurs, donnez ce que vous voulez. Il y en a qui sont riches, donnez beaucoup. Et ceux qui ont moins, donnez ce que vous pouvez. L'essentiel, c'est donner du fond du cœur, selon vos moyens. Puis le Seigneur va bénir, n'est-ce pas? Donc, les enveloppes circulent. Je vais prier pour conclure, puis peut-être pendant qu'ils termineront de donner les enveloppes, on chantera. Courbons la tête. Éternel, ton Père, notre Dieu, merci pour tes révélations, Seigneur, et merci pour les principes simples, Seigneur, que tu nous donnes sur comment tu veux que nous nous rapprochions de toi. Seigneur, en fait, la dévotion, c'est quelque chose de tellement simple. C'est juste qu'on trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire, Seigneur. On cherche toutes sortes de moyens pour compliquer, Seigneur, cette requête. Aide-nous à voir la simplicité de la chose, Seigneur, et à tout simplement la pratiquer. Un peu comme la nage, Seigneur, on peut toujours expliquer à quelqu'un comment nager, Seigneur, mais tant qu'il ne sera pas mis dans l'eau, il ne saura jamais comment nager. Permets que cela nous permette d'avoir une communion ininterrompue avec toi, que nous soyons vraiment solides dans notre relation, Seigneur, et que rien ne vienne nous ébranler. Que nous apprenions à écouter directement ta voix, Seigneur, et puis pas tout vent de doctrine. Et qu'ainsi nous soyons prêts pour le temps de la fin, et que nous soyons prêts pour les épreuves de notre vie. Merci pour tout, c'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen.